qui je suis. Donc, je suis un produit assez étrange dans l'entreprise. Je suis universitaire. J'ai fait une thèse de sociologie. J'ai écrit quelques articles et je suis aujourd'hui dans une grande entreprise du BTP, chargé du développement durable sur les volets sociaux du développement durable. Donc voilà, on est là aujourd'hui pour une petite session sur ce thème dont on parle beaucoup. Et pour l'introduire, je vais vous passer un petit clip qu'on trouve sur YouTube, vous qui êtes la génération numérique. Ce n'est pas Tokyo Hotel. Promis, la prochaine fois, je le passe. Alors par contre, comme la salle est grande, donc je vais essayer de mettre les baffes, mais j'espère qu'on entendra assez fort. Alors, pour vous dire qui est le groupe, et puis si vous voulez retourner voir ce clip, parce que bon, la luminosité est peut-être pas terrible depuis le fond. Donc c'est un groupe islandais qui n'apparaît jamais dans ces clips, mais qui fait beaucoup de chansons engagées sur des sujets qui touchent un petit peu à l'environnement, à l'avenir du monde, à l'avenir de la planète. Et là, en l'occurrence, on voit la vie quotidienne dans une école, probablement après une catastrophe nucléaire. Et vous voyez ces enfants avec ces masques et une petite fille qui meurt probablement d'avoir retiré son masque un peu trop longtemps. Donc c'est peut-être le monde qui nous attend dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, dans 2 siècles. Et aujourd'hui, il y a une vraie préoccupation pour voir ce qu'on peut faire ensemble pour que le monde de demain soit un petit peu meilleur qu'aujourd'hui et qu'on évite donc ces catastrophes. Alors, pour vous introduire le sujet, commencez par un proverbe que Saint-Exupéry a beaucoup cité, mais qu'on doit aux Indiens d'Amérique du Nord. On n'hérite pas de la terre de ses parents, on l'emprunte à nos enfants. Donc, c'est un proverbe qui dit bien ce qu'il veut dire et qui sensibilise peut-être s'il faut commencer par quelque chose. Aujourd'hui, on est de plus en plus d'êtres humains sur Terre, on consomme de plus en plus de ressources, on est de plus en plus nombreux. Dans les pays occidentaux, on est de plus en plus vieillissants. Donc comment faire pour qu'on puisse répondre aux besoins les uns des autres sans compromettre l'avenir des générations futures dont vous faites partie ? Donc vous donner quelques chiffres aussi pour introduire à cette sensibilisation cet après-midi. Quelques chiffres comme par exemple le fait que 20% des 6 milliards d'habitants sur la Terre subsistent avec moins d'un dollar par jour. données UNESCO, que 10% de la population du globe consomme 70% des biens et des services, qu'une personne sur 6 dans le monde n'a pas accès à l'eau potable, que 500 millions de voitures sont attendues en Inde dans les 5 à 10 ans à venir, qu'il y a 100 000 mal logés en France et que l'accès à l'eau fait plus de morts que 40 fois le conflit, enfin le nombre de morts qu'il y a eu à Hiroshima. Je vous ai cité en dernier point le nombre de morts qu'il y a eu à cause de la canicule à Marseille. Donc j'ai cherché les chiffres à la Seine-sur-Mer, je ne les ai pas trouvés. Donc vous savez qu'il y a eu cette canicule aussi en 2003, qui est pour l'instant restée pour les climatologues une énigme, mais qui est probablement due au réchauffement climatique dont on va parler tout à l'heure. Alors peut-être pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, revenir un petit peu sur le passé. On a une préoccupation aujourd'hui tous les uns les autres à des degrés divers, mais on ne peut pas parler du présent sans évoquer un petit peu ce qui s'est passé. Il y a eu une révolution très importante milieu 18e, 19e siècle qu'on appelait la révolution industrielle et que vous avez dû faire donc au cours de vos années de collège et si vous vous en souvenez, le fait qu'on est passé dans la plupart des pays occidentaux, souvent et notamment en Europe, d'une société rurale à une société très urbanisée, de plus en plus urbanisée, de plus en plus industrielle. Et en fait, au cours de cette révolution industrielle, il n'y avait absolument aucun intérêt de près ou de loin sur la question de l'environnement. Donc on a construit beaucoup d'usines, on a consommé beaucoup de ressources, et on ne s'est pas trop préoccupé autour des deux conflits mondiaux, de l'impact que pouvait avoir la consommation humaine, l'industrie humaine sur l'environnement. Donc il faut attendre les années 70 pour que commence à apparaître une interrogation collective. Interrogation collective qu'on peut résumer sur les dommages que l'industrie peut avoir sur l'environnement. L'inégalité entre les pays du Nord et les pays du Sud et les conséquences que ça va avoir sur nos pays. L'état de l'environnement planétaire dans un contexte où on est de plus en plus nombreux à consommer de plus en plus de ressources qui ne sont pas intarissables. Et puis des enjeux humains qu'on est incapable aujourd'hui de vraiment maîtriser, qui sont effectivement liés à l'environnement, liés à l'impact de l'augmentation de la température par exemple. Alors, une révolution industrielle où on ne se pose pas beaucoup de questions, des années 70-80, où on commence à réfléchir et à se dire, bon, peut-être que les activités humaines vont avoir un grand impact et qu'il faut commencer à réfléchir et à faire attention à ce qu'on consomme. Un tableau de Caillebotte qui vous représente le Paris du 19e justement, pour peut-être vous parler de... Vous évoquez l'opinion publique sur le sujet du développement durable. L'opinion publique aujourd'hui, lorsqu'on l'interroge sur le niveau d'information du public, les différentes sources, syndicats, partis politiques, industries, médias, enseignements, écoles, universités, et qu'on demande la confiance que l'opinion publique a en direction de ces acteurs, la question étant, quelles sources d'information, à votre avis, disent la vérité en ce qui concerne la protection de l'environnement? Donc ça doit être une enquête de 1999. Vous voyez que les pourcentages aussi entre 0% et médias et enseignements, ils ne sont pas précisés, mais c'est 5%. Donc l'opinion publique ne pense pas que les acteurs qui sont aujourd'hui en présence disent la vérité sur l'environnement. Et le sondage de 2006, qui est un petit peu plus récent, nous dit que 57% des Français ne savent pas ce que c'est que le développement durable. Donc 57% des Français. Donc on a interrogé les Français pour leur demander qu'est-ce que c'est que le développement durable. Donc ça aussi est entre je ne sais pas et je crois que c'est protéger l'environnement. Et dire ça, c'est très insuffisant. Alors définition, et puis un schéma, si vous devez en retenir un, ce sera celui-là. Donc la définition, c'est celle de Gro Harlem Brundtland, Donc, qui en 87, dans un rapport qu'elle a remis à l'ONU, définit le développement durable et dit que le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins des générations du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc on est un peu dans l'esprit du petit proverbe indien dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par contre, ce schéma, il résume bien les trois piliers du développement durable. On a tendance à croire que le développement durable, c'est que la nature, c'est que l'écologie, l'environnement, les écosystèmes. Et vous voyez que le développement durable, c'est aussi du social, parce qu'on ne fait rien sans les êtres humains. Et c'est aussi de l'économie. Comment l'économie, les flux financiers, ce que ça coûte, ce que ça rapporte, comment tout ça s'imbrique et donne des choses qui sont viables, qui sont vivables, qui sont équitables, qui, s'ils sont parfaitement bien équilibrés, nous donnent des actions durables. Donc voilà pour le petit côté définition. Une image qui a été prise par ce photographe dont le nom m'échappe, mais il va revenir à la terre vue du ciel, Artus Bertrand, merci monsieur le proviseur. Pour vous amener lentement vers quelques dates clés du développement durable. Donc ça sera le petit côté peut-être ennuyeux, parce qu'il y a plein de dates. Retenez peut-être quelques-unes de ces dates, notamment la conférence de Stockholm, qui a eu lieu en 72. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des années 70. En 1972, un club qu'on appelle le Club de Rome, qui existe toujours, a remis un rapport à l'ONU en disant que si l'on continuait au rythme où l'on consomme de l'énergie, au rythme où va l'industrie, au rythme où croît la population, on a fait un pronostic en 2100, savoir ce qui va se passer avec l'humanité en 2100. Et ce rapport disait que probablement à partir de 2080-2100, il y allait avoir une chute considérable du nombre d'êtres humains sur Terre, à cause notamment de l'augmentation de la pollution, de la faiblesse des consommations des ressources naturelles qui allaient fortement baisser également. Et donc ce rapport très très alarmiste, qu'on a appelé le premier sommet de la Terre, donc et qui a été... qui s'est passé donc aux Nations Unies à New York. Donc après ce rapport un peu alarmiste, disait qu'il fallait absolument essayer de rentrer dans ce schéma du développement durable en conciliant ce qu'on pourrait appeler de l'équité sociale, comment faire en sorte que ceux qui sont les plus démunis puissent subsister un minimum, comment faire pour qu'on ait une économie qui prenne en considération l'environnement. Ça suffit pas de faire beaucoup d'argent, mais comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est une grande entreprise pour limiter l'impact qu'on a sur l'environnement? Et donc cette première conférence, retenez-la surtout pour ce rapport de Rome qui a été alarmiste et qui a sensibilisé beaucoup de monde. Le rapport Brundtland en 87, donc avec cette apparition de la définition du développement durable que je vous ai citée tout à l'heure. Protocole de Kyoto, sûrement vous en avez entendu parler dans les médias. Donc le protocole de Kyoto, c'est donc une conférence qui, pour la première fois, imposait à une centaine de pays qui ont été signataires, donc on a dit partout que les États-Unis n'ont pas signé, et c'est vrai, donc c'est un des pays les plus pollueurs et qui a toujours pas signé ce rapport. Donc ce rapport de Kyoto oblige les pays à surveiller la pollution qu'ils rejettent dans l'atmosphère, ce qu'on appelle les gaz à effet de serre notamment, j'en reparlerai un petit peu plus loin. Alors, s'il n'y a qu'une seule conférence que vous devez retenir, c'est bon, celle de Kyoto, très bien, c'est celle de 92. Parce que c'est celle, je pense, qui a l'impact le plus quotidien dans votre vie. Donc, cette réunion de Rio, donc qui s'est passée à Rio de Janeiro, qui était le deuxième sommet de la Terre, donc a réuni un nombre très important de pays. Il y en avait 178, des présidents et des chefs de gouvernement. Et on a institué ce qu'on a appelé les agendas pour le 21e siècle. Donc des lycées, notamment en région PACA, il y en a quelques-uns, qui ont signé cet agenda 21, qui se décline au niveau des pays, au niveau des régions, au niveau des départements, et également au niveau des communes, voire des établissements. Donc cet agenda 21 stipule tout un tas de choses à faire sur l'économie, sur l'environnement, sur le social, et donne des préconisations. Donc la région PACA, où on se trouve, a signé un agenda 21 depuis 2006, et donc je vous en reparlerai tout à l'heure pour vous donner quelques détails. Alors voilà, ça c'était le côté conférence qui est importante parce que c'est quand même l'ensemble des pays qui sont rassemblés pour se préoccuper un petit peu de ce qui va se passer sur Terre. Alors sauver la planète. Est-ce qu'on va réussir à sauver la planète? Alors, des tas de stars commencent à s'engager pour sensibiliser l'opinion, pour sensibiliser le plus grand monde. Quelques-uns que vous reconnaissez, Yannick Noah, Nicolas Hulot, Jamel Debbouze. Peut-être que vous connaissez un petit peu moins celui qui est en bas à gauche, avec sa barbe. Quelques-uns le connaissent, levez la main. Hubert Reeves. Donc on a tendance à l'appeler l'astronome Père Noël. Donc c'est un astrophysicien qui est beaucoup médiatisé, qui a un accent un peu étrange, il roule les R, etc. Et qui s'est engagé beaucoup sur l'avenir de la planète, et notamment, il est dans un groupe qui fait un petit peu du lobby pour faire en sorte que les États-Unis signent le protocole de Kyoto. Alors Yannick Noah, que je suis allé écouter dans une conférence récemment, expliquait comment il s'est engagé avec le WWF, donc qui est une grande organisation non gouvernementale qui s'engage pour l'environnement. Elle a un petit logo, c'est un petit panda. Vous avez sûrement déjà vu ça. Et donc la première fois qu'on lui a dit « Est-ce que vous voulez devenir parrain du WWF pour protéger l'environnement ?» Il a dit « Ah oui, ça m'intéresse l'environnement. » Moi qui ai notamment des origines en Afrique, ça me préoccupe, je veux bien venir. Et il racontait qu'il est arrivé dans cette conférence avec son gros 4x4. Et quand il a garé son 4x4, tout le monde avait des petites voitures qui étaient hybrides, qui roulaient à l'électricité. Il y en a qui étaient venus à vélo parce que ça dégage moins de consommation. Et tout le monde est sorti autour de son 4x4 et en lui disant « Mais vous roulez en 4x4 ?» Il a dit « Ben oui, pourquoi ?» Il ne savait pas que c'est très très polluant. Et donc il a dit que dans le mois suivant, il a vendu son 4x4 pour acheter une Toyota Prius. Donc il y a une Toyota qui roule partiellement thermique et partiellement à l'électricité. Donc voilà un certain nombre de gens. Celui qui est en haut à droite, peut-être que vous le connaissez un petit peu moins, qui est l'ancien vice-président des États-Unis, Al Gore. Donc il est devenu médiatique parce qu'il a réalisé un film qui s'appelle Une vérité qui dérange, que vous trouvez aussi sur internet, et en fait où il explique que grosso modo au rythme où on va, le tsunami de l'Indonésie, ça va devenir quelque chose de naturel, l'augmentation de la température va avoir des conséquences gravissimes sur l'environnement, etc. Alors commençons par le premier pilier, l'économie. Donc l'économie, notamment, c'est, comme je vous le disais, essayer de réconcilier l'efficacité économique. Peut-être que certains d'entre vous, d'ici 5 ou 10 ans, vont créer leur entreprise, faire de l'argent. Ils auront raison. Donc comment est-ce qu'on fait de l'argent, mais qu'en même temps on fait attention à l'environnement? Et comment est-ce qu'on essaie de prendre en compte des préoccupations sociales, notamment d'équité, de faire travailler des gens qui sont plus victimes de discrimination? Aujourd'hui, dans la diversité, on inclut beaucoup de monde. J'en parlerai à la fin de ma conférence. Mais voilà, comment est-ce que on essaye, dans le volet économique, d'intégrer ces trois sphères? Alors, une petite image, celle de gauche qui a été prise en Éthiopie en 86, et celle de droite a été prise dans une région du Mali. Donc ce sont des enfants qui font la queue pour la distribution de nourriture par des organismes des Nations Unies. Cette image, pour vous sensibiliser sur notamment la différence de niveau de vie qu'il y a entre les pays du Nord et les pays du Sud. Alors un petit graphique, je ne sais pas si vous voyez bien depuis le fond, qui vous montre l'évolution du PIB par habitant, donc du produit intérieur brut. Donc toutes les richesses produites par un pays, pour simplifier, par habitant en dollars. Et donc vous avez sur le schéma du tiers de pays le plus riche l'évolution entre 1970 et 1995. Et vous avez tout en bas le tiers le plus pauvre des pays. Donc vous voyez que leur richesse n'a pas bougé du tout. Donc que les pays riches sont devenus de plus en plus riches et que les pays pauvres sont restés pauvres, voire pour certains sont devenus encore plus pauvres. Donc que l'écart entre les pays riches et les pays pauvres est en train de s'aggraver. Alors écart entre les pays pauvres et les pays riches qui s'aggrave, ça génère des tas de gens qui ont envie de fuir de leur pays parce qu'ils ne mangent pas à leur faim, ou qui fuient pour pouvoir venir travailler, envoyer l'argent à leur famille. Donc une des possibilités d'une collaboration entre le Nord et le Sud, c'est notamment le commerce équitable. Alors, comme je suis un cadre dynamique sur Bouquet, j'ai complètement oublié de vous amener des tablettes de chocolat équitables. Bon, la prochaine fois, je le jure. Donc, commerce éthique, commerce équitable. Qu'est-ce que le commerce éthique, qu'est-ce que le commerce équitable? Est-ce que vous connaissez la différence entre l'éthique et l'équité? C'est une différence avec un petit peu de finesse, mais... Est-ce que vous sauriez me dire la différence entre le commerce éthique et le commerce équitable? Il y a des audacieux, des téméraires? Non? Alors, est-ce qu'il y en a qui ont fait du latin? Levez la main. Allez, n'ayez pas honte, c'est très bien de faire du latin. Du latin ou du grec, non? Bon, le latin et le grec, on sait, après qu'on l'ait fait, l'intérêt que ça a. Au moment où on est là devant le prof de latin, ça peut être un petit peu barbant. Mais on découvre vite le grand intérêt des professeurs de latin et des professeurs de grec après. Alors, quand on comprend pas un mot, on revient à l'étymologie. Donc l'éthique, en latin éthicus, ou en grec éthiké, c'est la morale, pour simplifier. Donc comment est-ce qu'on peut faire du commerce moral? En disant moral, on veut dire par là, un commerce qui prend en considération les droits de l'homme. Vous avez peut-être entendu parler de cette affaire, parce qu'on en a parlé partout, et que vous adorez les marques. Nike, donc cette grande marque, a été alpaguée. Ah. On va attendre 2 minutes. Donc Nike a été alpaguée parce qu'on a découvert que dans certains pays, elle faisait travailler des enfants et qu'elle les payait moins cher que des adultes. Donc le commerce qui prend en considération les droits de l'homme, donc c'est du commerce éthique, alors que le commerce équitable, c'est au contraire d'essayer de... Comme on sait que les pays du Nord et les pays du Sud ont cinq grandes différences de richesse, c'est d'essayer de voir comment, lorsqu'on achète, on peut privilégier des achats qui viennent des pays du Sud par des filières qui essaient d'aider les gens qui sont dans ces pays. Alors, je vais vous montrer 3 petits clips pour vous sensibiliser à la question du développement du commerce équitable. Alors, s'il y a encore trop de bruit, j'en passerai que 2. Et si vous êtes sympa, j'en passerai 3. Alors par contre, essayez de faire silence, s'il vous plaît, parce que je pense qu'on n'entend pas très très bien. Alors ça sera un peu petit, mais je pense qu'on verra correctement.
Qu'est-ce que je te mets pour ton goûter demain? Les gâteaux? Non, t'as pris le gâteau. Attends, une banane. Tu veux une banane?
J'aime pas les bananes.
Oh non, mais... C'est très bon, les bananes. C'est plein de vitamines, de minéraux, de potassium. Indispensable, le potassium. Tu la vois, cette banane?
Bah ouais.
Chut, regarde-la bien. Parce que t'en as jamais vu des comme ça. Cette banane, c'est africain. A été cueillie en République dominicaine par les parents d'un enfant de ton âge, Javier.
Javier?
Ouais. Et ils nous l'ont envoyé exprès, tu sais pourquoi?
Bah non.
Et bien pour que leur petit garçon puisse aller à l'école, s'acheter des chaussures, se faire vacciner, dormir sur un matelas, j'en passe. Tu saisis? Ça s'appelle le commerce équitable.
C'est nul les bananes. N'importe quoi, cette banane est spéciale, elle est équitable.
Ça veut dire quoi équitable?
C'est les parents de Ravière qui me l'ont envoyé de République Dominicaine exprès pour que je la mange pour qu'il puisse aller à l'école.
L'école c'est nul. Et il pourra aussi se faire vacciner.
Ah, j'aime pas la piqûre. Et il pourra aussi s'acheter des chaussures.
Pourquoi, il n'y a pas de chaussures?
Bah non, il est pieds nus tout le temps. Ça lui fait pas mal de rester pieds nus?
Bah si.
Ça veut dire quoi, équitable?
Donc, il est...
Avec Roman.
Avec Laura.
Coliba.
Ah, Ferdinand. Et vous, les enfants?
Alors, est-ce qu'on entend correctement au fond ou pas? Ça va? Alors, Pablo, mon père et moi...
Le café, ça m'énerve.
Ça serait pas mal. Tu goûtes tout? Un café serré, s'il vous plaît. Il s'appelle déjà...
Il s'appelle plus.
Ah bon?
Largué.
Ah. Et...
Quoi?
Mais je sais pas, t'as rien à me raconter? Oh là là, mais je sais pas, quand j'avais ton âge, j'avais des envies, j'avais des centres d'intérêt. Et pas, je voulais que le monde bouge, quoi.
Tu parles? Vous vouliez pas changer le monde? Vous vouliez que le monde vous ressemble? C'est pas pareil. Puis alors moi, vos trucs de politique, de dictature, du prolétariat, tout ça, mais je m'en fous. Tout ce que vous avez fait, c'est faire la morale à tout le monde. D'ailleurs, tu continues.
Et qu'est-ce que tu fais pour changer le monde, toi?
Moi, je mange des bananes. Et le monde, il change. Tandis que toi, avec ton café, tu sais ce que tu fais?
Regarde.
Pablo, il plante, il cultive, il paie les intermédiaires et hop, voilà ce qu'il lui reste.
Mon café.
Tandis qu'avec du café équitable...
Équitable.
Ben Pablo, il gagne mieux sa vie. Il envoie ses gosses à l'école, il préserve son environnement.
Ah, t'as raison, ça t'énerve le café.
Ah non, mais le chocolat, c'est pareil. Celui-là, là, le chocolat, c'est zéro pour tout le monde. Pablo, il gagne rien avec ça. Tandis qu'avec du chocolat...
Équitable.
Bien. Eh ben Pablo, il travaille dans la sécurité, il a accès aux soins.
Mais c'est qui Pablo?
Non, mais je disais ça comme ça. Et les habits?
Ah non, non, pas les habits, ça va, j'ai compris.
Si, les habits, le coton, là, regarde. Et hop, à cause de la bourse, hop, à cause des spéculateurs, et hop. Ah, mais dis donc, t'es pas mal comme ça.
Ah, t'es drôle.
Ah ouais, ouais. Bon, ben moi, il faut que j'y aille. T'aurais pas un billet pour faire les courses, justement?
Équitable.
Of course.
Ngon lắm, không phải nghĩa không pháp. Đi Việt Nam nha, khai bu, mua đi. Ê, 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 trên này t-shirt 100% coton gri Bamako. Ách tu lê à rôté, rôté, rôté. Thế là kia t'en a tu gars. Hein? Bamako.
Bonjour. Bonjour. Ah, on a un code couleur, c'est quittable en 4-8.
Dans une coopérative de coton au Sénégal.
Bon, arrête de requêter à tout gars, quoi.
Ah bon?
Bon, j'ai dit, tu es venu pour les t-shirts. Mmh.
Allons regarder le chat.
Voilà, Max Avelar, donc, qui est un label et pas une marque. Donc, le commerce équitable. Donc, le commerce équitable, comme vous le voyez, alors, notamment dans les clips qui ont été réalisés par Max Avelar, vous pouvez les retrouver sur le site. Vous voyez comment l'intérêt que ça a. C'est que on garantit le prix, un prix aux producteurs, que ce soit des producteurs de café, des producteurs de cacao, des producteurs de coton, qui en général se rassemblent autour d'une coopérative. Et donc ce qu'on impose à la coopérative, en échange d'un prix du marché qui ne bouge pas, même si le prix du café chute, on leur donne le même prix du café. Parce que le problème des producteurs dans les pays du Sud, c'est qu'ils sont tributaires du marché si... le marché chute, le marché du café chute, bah, ils peuvent se retrouver certains mois à ne rien gagner parce que ils n'ont pas la garantie que les prix ne fluctuent pas trop. Donc les labels, dont notamment Max Avelar, c'est l'un des labels les plus connus, garantit un prix du marché qui ne change pas. Mais en échange, on demande aux producteurs, donc en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, de se constituer en coopérative et d'avoir des projets de développement durable. Alors notamment cette coopérative au Sénégal, donc on leur impose de mettre une partie de leur argent de côté pour des projets de protection de l'environnement, dont notamment la construction de ce puits, et puis des projets collectifs d'intérêt public, la construction d'un hôpital, d'un dispensaire, d'une école. Là, on voit qu'il y a une petite école. Et donc, voilà, sur une banane, par exemple, vous voyez comment le prix du marché, grâce au label, permet de garantir un revenu qui soit le même. Alors, passons au deuxième pilier, parce que le temps y est un peu compté. Donc, l'environnement. Et notamment, on parle beaucoup du réchauffement climatique. Donc le réchauffement climatique, comme vous le voyez là sur ce schéma, vous avez à gauche deux petits graphiques qui vous montrent l'augmentation des températures et à gauche le réchauffement climatique et l'impact que ça a sur le Groenland. Et donc vous avez une photo du Groenland en 92 et une autre 10 ans plus tard et vous voyez comment les zones en rouge notamment sont des zones de fonte. Donc pour ceux qui n'avaient pas la preuve que la température augmente, le Groenland, de ce point de vue, est assez éloquent. Alors cette augmentation de la température, elle est due à des tas de facteurs, et notamment d'abord l'augmentation du nombre d'êtres humains sur la Terre, et l'augmentation, et c'est une conséquence, de la consommation de plus en plus importante d'énergie. Il y a de plus en plus de gens sur Terre qui consomment de plus en plus d'énergie. Je vous parlais tout à l'heure des 500 millions de voitures qu'on attend en Chine dans les décennies qui viennent. Et donc on parle beaucoup des gaz à effet de serre. Vous entendez souvent ça dans les médias. Donc ces gaz à effet de serre, c'est notamment des gaz qu'on retrouve dans un certain nombre de produits électroménagers, donc les CFC par exemple, les gaz fluorocarbone, qu'on retrouvait beaucoup dans des aérosols, dans des systèmes de climatisation, etc. Donc aujourd'hui l'industrie produit les mêmes choses, donc, mais tous les aérosols ne contiennent plus de CFC. Et donc ces gaz à effet de serre, c'est également ce qui sort des échappements des voitures, et ça produit une sorte de petit couvercle, donc dans une partie assez élevée de l'atmosphère. Et là, on le voit sur ce schéma, des rayons qui arrivent sur Terre. Une partie est absorbée donc par le sol, une partie s'en va. Et à cause de cette surface de gaz à effet de serre, la température est retenue à l'intérieur de la Terre et ça fait un effet couvercle, un effet cocotte-minute qui fait augmenter la température. Alors, quelle solution pour que la température n'augmente pas de trop dans les années à venir? Parce que si elle augmente trop, la fonte des pôles risque d'avoir des conséquences dramatiques, avec en plus le dérèglement du climat. Donc une des solutions, c'est par exemple des véhicules électriques. Ce type de véhicule, par exemple, à La Rochelle, est devenu un véhicule en libre service que les habitants peuvent utiliser comme ils le veulent. Donc les véhicules électriques aujourd'hui, notamment hybrides, sont beaucoup utilisés. Il y a beaucoup de bus aujourd'hui, dans à peu près une vingtaine de villes en France, qui fonctionnent à l'électricité. C'est également les éoliennes. Alors avec un tas de soucis, parce que les éoliennes, ça fait du bruit, parce que les éoliennes, beaucoup de riverains ne souhaitent pas les voir dans le panorama parce que c'est pas très beau. Bref, en tout cas, il y a un tas de soucis, mais là, en l'occurrence, vous voyez, elles sont sur la mer. Donc aujourd'hui, il y a des éoliennes turbines, donc qui tournent avec moins de 2 mètres par seconde et qui ressemble à un lampadaire avec une petite turbine qui tourne au sommet. Donc c'est une des solutions possibles qu'on peut installer. Et s'il fallait une preuve par l'humour qu'il y a un réchauffement climatique, c'est ce que vous voyez à l'écran. Alors le réchauffement climatique, le réchauffement climatique, c'est aussi l'impact qu'on a sur l'environnement. et l'impact sur l'environnement. Alors il y a quelques sites internet qui sont intéressants et vous pouvez aller calculer votre impact sur l'environnement. Et cet impact, on le calcule notamment par donc ce que vous voyez à l'écran. Donc c'est un rapport que l'on fait entre les besoins que vous pouvez avoir et la surface terrestre dont vous avez besoin pour votre survie. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, c'est ce qu'on appelle donc l'empreinte écologique. Là, en l'occurrence, c'est le site d'Agir 21, qui est un réseau d'associations nationales. Donc, en rentrant, ce que vous consommez, etc., ça vous donne votre empreinte écolo. Et donc, vous avez le nombre, en prenant le nombre d'habitants et le nombre de mètres carrés d'hectares nécessaires à votre survie, à la production de vos besoins. Donc on obtient une surface terrestre et on a calculé que pour un niveau de vie tel qu'on l'a en France, si l'ensemble de l'humanité vivait comme on vit en France, il faudrait 2 à 3 planètes pour que tout le monde puisse vivre comme nous. Si on prend le niveau de vie américain, alors les Américains sont 7% de la population, mais ils consomment 25% des besoins et des ressources. Donc si on vivait tous comme des Américains, il faudrait 5 à 6 planètes. Donc ça suffirait pas. Et donc la grande question, c'est qu'est-ce qu'il en est des PVD, donc des pays en voie de développement, dont la population et l'accroissement démographique sont très importants, sachant qu'on estime qu'à la fin du siècle, on sera entre 9 et 10 milliards d'habitants. Pour finir, sur le côté environnemental, vous parlez de ce petit animal que vous connaissez. Vous avez tous regardé les dessins animés peut-être de Maya l'abeille, où vous étiez trop jeune. Donc l'abeille, un animal qui est apparu il y a 80 millions d'années, qu'on a retrouvé sur des papyrus en Égypte, dans des galeries rupestres. Donc on utilise le miel depuis des années, depuis l'Antiquité. Et donc en fait le grand problème qu'il y a avec les abeilles, c'est que depuis à peu près une dizaine d'années, on constate un phénomène, alors qui a un nom anglais parce que ce sont des scientifiques anglais qui ont surtout travaillé là-dessus, donc New Collapse Disorder, donc un désordre collatéral inexpliqué. En fait les abeilles quittent les ruches, se rendent dans un endroit, se posent et se laissent mourir. Et on ne sait pas expliquer pourquoi les abeilles meurent. On a quelques pistes aujourd'hui, dont notamment l'utilisation des engrais et un impact éventuellement du champ électromagnétique. Mais aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Et donc aux États-Unis, où le phénomène est le plus grave, il y a entre 60 et 90% des abeilles dans certaines régions qui ont disparu. Et en France, on est entre 10 et 40% des abeilles. Alors, est-ce que ça doit nous inquiéter? Einstein a dit au sujet des abeilles que si l'abeille disparaît, il donne 4 à 5 ans à l'humanité. Bon, les experts disent que ce sera sûrement beaucoup plus, mais le problème, c'est que l'abeille, elle pollinise beaucoup de fleurs, beaucoup de fruits, et que si l'abeille disparaît, il va manquer un chaînon dans l'écosystème. Et donc, on ne sait pas encore l'impact que va avoir la disparition probable des abeilles. Donc vous direz peut-être à vos petits-enfants, tu sais, quand j'étais petit, il y avait des abeilles. Alors pour en venir peut-être maintenant à ce qu'on peut faire, donc ce qu'on appelle les éco-gestes. Donc on peut faire des tas de petits gestes qui protègent la planète, qui protègent l'environnement. Des petits gestes d'abord sur l'énergie, donc sur la lumière, de bien éteindre la lumière quand on rentre et quand on sort, notamment dans les sanitaires, de ne pas oublier les salles de réunion, de ne pas laisser brancher vos ordinateurs, parce que même si vous éteignez vos ordinateurs mais qu'ils continuent d'être branchés, ils continuent de consommer de l'électricité. C'est valable pour vos chargeurs de téléphone portable. Et donc la petite astuce, c'est d'installer tout simplement un interrupteur entre l'ordinateur et votre prise de téléphone, de votre prise de qui va à l'ordinateur, et d'appuyer sur l'interrupteur de ce multiprise. Donc la climatisation ou le chauffage, baisser d'un degré le chauffage chez vous, ça vous fait baisser de 7% la facture énergétique. Sur le retraitement des déchets également, on peut faire un tas de choses. Donc le fait d'imprimer chez vous, par exemple, en recto verso, d'imprimer sur plutôt du papier recyclé que sur du papier classique. Et voilà, tout ce que vous voyez à l'écran, un tas de petits gestes que l'on peut faire. Alors, trier et recycler, notamment, si vous devez retenir sur les déchets quelque chose de simple, retenez la loi des 3 R, comme René. Donc, de recycler, essayez de recycler au maximum les choses. Il y a beaucoup de sites internet aujourd'hui qui existent, si vous voulez vous débarrasser d'un canapé, on en parlait avec monsieur le proviseur tout à l'heure, d'un canapé, d'un engrais, de tuiles, d'un vieux réfrigérateur, d'un vieux téléphone portable, etc. Donc il y a des sites en fait où vous pouvez échanger vos objets ou les faire récupérer par d'autres. Donc de réutiliser les choses quand c'est possible, de les recycler, donc de les trier. La plupart des communes aujourd'hui ont donc ces 3 petites poubelles que vous voyez qui sont de couleur, où on trie papier, plastique et autres déchets ménagers. Et de réduire quand c'est possible. Un petit geste simple, par exemple, c'est d'écraser les bouteilles, de remettre le bouchon pour qu'elles restent bien comprimées, pour gagner un petit peu de place dans les sacs poubelles. Donc, vous donnez quelques chiffres aussi sur les déchets. Les déchets, c'est les déchets ménagers, mais c'est également les déchets de l'industrie, c'est les déchets, comme vous le voyez dans cette image, des déchets maritimes aussi. Les déchets, puis les petits éco-gestes que l'on peut faire. En France, on a calculé que chaque habitant usait entre 450 et 500 kilos de déchets par an. Donc 450 à 500 kilos de déchets par an, c'est 260 millions de tonnes en France. Donc 260 millions de tonnes, c'est énorme. Et effectivement, si c'est trié, si c'est recyclé, si c'est réutilisé, on peut vite faire beaucoup de choses. Alors là, je vous ai mis quelques petits exemples aussi que vous pouvez facilement pratiquer chez vous. À la place de prendre un bain, de prendre une douche. Puisque un bain, en moyenne, c'est à peu près